on commence avec les grands titres pour ce 24 octobre 2017. La Catalogne, pris dans la tourmente politique, cette semaine sera cruciale pour l'avenir de la région. En Australie, polémique autour du projet NBM, on va l'entendre, des voix s'élèvent. Et en Europe, des discussions autour du rôle des travailleurs détachés. Et la crise en Catalogne, donc, pour débuter ce journal, et le vote éventuel de l'article 155 suspendant l'autonomie de la région qui est prévu pour vendredi au Sénat espagnol. Une session du Parlement catalan est prévue la veille, donc jeudi. Et à Barcelone, le recours à la désobéissance civile semble tenter de plus en plus d'indépendantistes. Reportage Béatrice Léveillé.
La couple parti d'extrême gauche alliée aux indépendantistes appelle déjà à la désobéissance civile. Près de la moitié des pompiers assurent qu'ils ne reconnaîtront pas d'autre autorité que celle de leur président et de leur parlement. Et des collectifs étudiants ont appelé à une grève dès jeudi à Barcelone. Mais il reste encore un espoir que le dialogue prévale sur la confrontation entre les gouvernements catalans et espagnols. Carles Puigdemont a accepté de se rendre devant le Sénat vendredi pour expliquer sa position, les explications de la dernière chance. Samedi, il n'aura plus aucun pouvoir, il perdra ses deux gardes du corps, son logement, sa voiture de fonction et ses émoluments de président de la Generalitat. À Madrid, seuls Podemos et Izquierda Unida, les deux partis les plus à gauche, considèrent que la meilleure manière de protéger l'unité de l'Espagne, c'est de séduire la Catalogne en réformant la constitution espagnole. Les socialistes, eux, soutiennent Mariano Rajoy, considérant les velléités indépendantistes catalanes comme une agression contre le reste de l'Espagne et la constitution espagnole.
Et c'était Béatrice Léveillé pour RFI. Hier à Genève, en Suisse, donc, avait lieu une conférence internationale, le tout pour rassembler des fonds pour venir en aide à la communauté Rohingya. Vous le savez, les Rohingyas sont des réfugiés au Bangladesh. Ils ont subi des violences, parfois même très violentes, en Birmanie. L'objectif est de récolter 367 millions de dollars d'ici à février. 85 millions ont déjà été réunis, dont 51 millions de dollars par l'Union européenne. Écoutez, Christos Ilianes, il est le commissaire européen pour l'aide humanitaire, lors d'un message vidéo durant cette conférence.
Aujourd'hui, nous sommes unis pour une cause juste, celle d'un peuple apatride qui souffre depuis trop longtemps. Les Rohingyas ne méritent rien de moins que n'importe quel autre être humain au monde. Nous avons une responsabilité morale, celle de redonner de l'espoir à ces populations. En accord avec ma chère collègue, la haute représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, et mon cher confrère Neven Mimica, le commissaire en charge du développement, je suis heureux de vous annoncer une aide supplémentaire de 30 millions d'euros. Ce qui porte le total de l'assistance de l'Union européenne à la crise des Rohingyas à plus de 51 millions d'euros pour cette année seulement. La semaine prochaine, je vais me rendre au Bangladesh pour rencontrer les réfugiés à Cox Bazar et je leur adresserai un message très clair. L'Union européenne est avec vous, elle se tient à vos côtés. Nous ne vous oublions pas et nous ne vous oublierons jamais.
C'était donc Christos Lianides, le commissaire européen pour l'aide humanitaire. Écoutons également Shamim Hassan, il est l'ambassadeur du Bangladesh aux Nations Unies. Pour lui, le pays et la situation du pays est maintenant intenable.
We are continuing to exercise utmost restraint in the face of repeated, unwarranted and willful provocations. On her part, Myanmar should realize there is no taker for her baseless and malicious propaganda projecting Rohingyas as illegal immigrants from Bangladesh. This blatant denial of the ethnic identity of Rohingyas remains a stumbling block.
Voilà donc Shamim Hassan, l'ambassadeur du Bangladesh à l'ONU. 13h et presque 5 minutes, direction Pékin maintenant. Ce sont les états généraux du parti communiste donc. Et dans la ville, eh bien, Pékin est quasiment en état de siège pour beaucoup de dissidents. Cela rime avec détention, interrogatoire et vacances forcées. C'est le cas de Ruzia, l'un des militants chinois des droits de l'homme les plus connus. Reportage Heike Schmidt.
Ruzia a dû faire ses valises et partir en vacances, tout frais payés par le gouvernement.
J'ai été forcé de quitter Pékin, accompagné de la police. Nous sommes d'abord allés à Dali, dans le Yunnan, et maintenant je suis en route pour Beihai, dans le Guangxi. Mon voyage se terminera avec la fin des mesures de sécurité prises pour le congrès le 28 octobre. Je ne suis pas libre de mes mouvements, deux policiers me suivent comme mon ombre.
Le dissident ne se fait aucune illusion sur le deuxième mandat de Xi Jinping.
Peu importe que ce soit Xi ou un autre chef de parti, ce sera du vieux vin dans de nouvelles bouteilles. Ils protégeront toujours leurs intérêts. L'argent du contribuable sera dépensé pour recruter des policiers qui surveilleront les citoyens. La Chine continuera à faire taire Internet. Nous vivrons alors en enfer. Les internautes seront comme des grenouilles vivant dans l'obscurité, au fond du puits.
Comme Hu Jia, bon nombre d'ONG de défense des droits de l'homme craignent que Xi profite des 5 ans à venir pour museler davantage la société civile.
Et c'était Heike Schmidt, donc depuis Pékin, pour RFI. En Australie maintenant, le ministre du Trésor, Scott Morrison, pense qu'une augmentation de la productivité dans le pays est nécessaire pour l'économie. Pour lui, il est primordial que le pays atteigne une croissance de 2,5 points cette année. On écoute Scott Morrison sur le plan de croissance donc pour l'Australie à 5 ans.
The new path we are encouraged to embark upon is signposted by a series of key insights, pointing to the need for, amongst other things, more integrated and patient-centered healthcare to create more healthy workers, a more proactive education system that supports better teaching to create more proficient, more resilient and more adaptive workers, and more functional cities that do not choke our economy.
Ouais, donc le ministre du Trésor, Scott Morrison, est sur le point donc de la croissance. Le porte-parole de l'opposition sur les questions du Trésor, hein, Chris Bowen, demande au gouvernement de se souvenir que c'est le Parti travailliste qui avait mis ceci en avant. C'était en 2013. On écoute Chris Bowen.
Labour has led the debate and set the agenda since 2013. We'll continue to do so. We leave this government in our wake when it comes to setting the agenda with inclusive growth and investing in our people through human capital. Well, I hope that Scott Morrison gets the message today. I hope that he listens to that inclusive growth agenda. And more importantly, I hope he changes his policies to reflect that.
Voilà, donc le porte-parole de l'opposition sur les questions du Trésor, Chris Bowen. L'ancien Premier ministre Kevin Rudd a attaqué Malcolm Turnbull sur le statut du NBN. L'ancien leader des travaillistes a déclaré à ABC que les attaques récentes à la fois de Malcolm Turnbull et de Tony Abbott envers le projet sont infondées et ce sont des altérations faites par les gouvernements successifs qui posent le problème du NBN aujourd'hui. On écoute Kevin Rudd.
What we had planned and began to roll out was perfectly designed for this nation's needs, fibre optic to the home, to the premises, to the shop, to the school, to the hospital. You cut that off and instead you adopted a policy of landing the fibre optic cable somewhere mysteriously in the neighbourhood. Frankly, the changes lie all on your head.
Voilà donc l'ancien Premier ministre Kevin Rudd qui donne son point de vue sur le statut du projet NBN. 13h08, on va repartir en Europe maintenant. Les ministres européens du travail sont réunis pour parler du cas des travailleurs détachés. Énorme point de contention entre plusieurs pays, notamment la France et la Pologne. Les travailleurs détachés sont, je vous le rappelle, régis par la loi européenne et autorisés à travailler dans un autre pays, tout en conservant les droits sociaux ou certains droits sociaux et le coût du travail de leur pays d'origine. En Allemagne, partenaire important de la France, la question se pose beaucoup moins qu'en France. Reportage de Pascal Thibault depuis Berlin.
Les règles valant pour les travailleurs détachés ne doivent pas être renforcées. Elles sont aujourd'hui satisfaisantes pour les employeurs comme pour les salariés. Le patron des patrons allemands, Ingo Kramer, vient de rappeler le peu de bien qu'il pense du projet de réforme qu'il qualifie de hautement bureaucratique et inacceptable. Différents secteurs économiques allemands profitent de ces travailleurs détachés, comme le bâtiment, l'industrie de la viande, les transports ou encore la prise en charge des personnes dépendantes. Contrairement au patronat, les syndicats allemands approuve le durcissement des règles et réclame le paiement du même salaire pour les mêmes tâches. Ces organisations dénoncent de nombreux abus par lesquels les entreprises détournent les règles déjà existantes en imposant aux personnes concernées de payer des sommes souvent exagérées pour leur voyage jusqu'en Allemagne ou leur hébergement sur place. Autant de mesures qui permettent de diminuer à l'arrivée le salaire versé. Le gouvernement allemand soutient la volonté de la France de durcir les règles pour les travailleurs détachés, mais ce soutien est d'abord l'expression d'une solidarité politique à l'égard du partenaire français. La santé économique plus favorable de l'Allemagne avec un chômage faible explique que cette question n'est pas la même importance qu'en France.
Et c'était Pascal Thibault depuis Berlin pour RFI. 13h10, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a fait une visite surprise en Afghanistan. Au programme, pas de visite de Kaboul, il est resté sur la base américaine ultra sécurisée. Mais au programme, par contre, des rencontres avec les autorités locales et le soutien aux troupes américaines en place dans le pays. Et je vous rappelle que le pays, il y a une vague de séries violentes d'attaques toutes ces dernières semaines, comme nous l'explique Sonia Ghezali.
L'avion de Rex Tillerson s'est posé sur la base militaire américaine Bagram à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kaboul. Le secrétaire d'État américain a rencontré le président afghan Ashraf Ghani, le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah. L'occasion pour Rex Tillerson de réitérer l'objectif des États-Unis avec la nouvelle stratégie américaine, renforcer le contingent de soldats américains déployés sous la bannière de l'OTAN, 11 000 soldats, que 3 000 autres viendront renforcer prochainement. Nous devons continuer de lutter contre les talibans et les autres groupes terroristes de façon à ce qu'ils comprennent qu'ils ne gagneront jamais, a-t-il déclaré, un message adressé aux insurgés qui ont multiplié ces derniers jours les attaques, notamment contre les forces de sécurité et contre une mosquée chiite à Kaboul. Au moins 200 personnes ont été tuées en l'espace de 5 jours. Ce matin encore, une roquette de 3 à 4 mètres de longueur est tombée à 1 km du siège de l'OTAN dans la zone verte située dans le centre-ville de la capitale afghane, ne faisant aucune victime. Rex Tillerson se rendra ensuite au Pakistan. Nous voulons une coopération étroite, a-t-il fait savoir. Le Pakistan est souvent accusé par les autorités afghanes de ne pas combattre les groupes armés qui se réfugient de l'autre côté de la frontière dans les zones tribales.
Et c'était Sonia Ghazali pour RFI en Afghanistan. Un mot de sport pour conclure ce journal et le point sur les récompenses de la FIFA qui ont lieu hier. Il y a quelques belles surprises. Le point avec Thomas de Saint-Léger.
Honoré, Cristiano Ronaldo élu sans surprise meilleur joueur, Zinedine Zidane meilleur entraîneur, la néerlandaise Lieke Martens meilleure joueuse. Enfin, Olivier Giroud a reçu le prix Puskás du plus beau but pour son coup du scorpion réussi le 1er janvier dernier lors de la victoire 2-0 d'Arsenal sur Crystal Palace. Un Togolais évoluant dans le championnat tchèque, Francis Kone, attaquant et ange gardien, cet homme a sauvé la vie de 4 joueurs sur le terrain la dernière fois. Au mois de février dernier, il avait empêché l'un de ses adversaires d'avaler sa langue. Kone a donc reçu le prix du fair play.
Voilà donc 2 Français et 1 Togolais honorés par la FIFA. C'était Thomas Saint-Léger. Coup d'œil météo à travers le pays pour aujourd'hui. À Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 28. Melbourne, 21. Hobart, 19. Canberra, 24. Sydney, 26 degrés. Brisbane, 25 degrés. Cairns, 31 degrés. Et Darwin, 34 degrés. Un retour sur les grands titres de l'actualité pour ce 24 octobre 2017. La Catalogne qui est prise dans la tourmente politique. Une semaine très importante pour la région avec des décisions cruciales pour l'avenir. En Australie, on l'a entendu, polémique autour du projet NBN. Des voix s'élèvent, notamment l'ancien Premier ministre Kevin Rudd. Et en Europe, des discussions autour du rôle des travailleurs détachés.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench